Vous écoutez France Culture.
I like it more, Nicolas.
Я хотел бы так, шикарь. Раз, два.
What are you listening to?
Something cool.
Oh, yeah.
Я casa mia. La. Aspetta la donna. E la. Lasciate prendere se vuoi. Pelvo. La prete vuoi.
Ça sonne bizarre ce soir le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de flics, de rats, de shit, de Mozart, de la Russie et même de Marilyn Manson. Avec Quentin Dupieux qui signe Wrong Cops, un film bête et méchant sur des flics pourris de Los Angeles, bref, du cinéma très indépendant pour un cinéaste-compositeur très French Touch. Aux États-Unis, Lucille Como.
Un film bête et simple, selon les mots de Quentin Dupieux, comme la musique qui en est à la fois la bande originale et le principal ressort.
Le questionnaire du lundi de Manu Farine pour son invité rencontré le week-end, ce sera à 19h30 avec Michel Portal, compositeur et clarinettiste. Et puis nous recevrons Théodore Curensis, chef d'orchestre pour une version schubertienne des Noces de Figaro de Mozart, Mathieu Conquet.
Et pour le moins décapante, très contrastée, des écarts d'intensité qui surprennent et surtout peu de vibrato dans les voix, le plus loin possible du chant d'opéra.
La session sera inédite ce soir, Mathieu.
Et plutôt rare avec le pianiste Ahmad Jamal. Il était venu en novembre dernier et avait gravé pendant les balances une improvisation sur le piano du studio 108.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle avec le journal de la culture de Xavier Martinet qui annonce la journée nationale de manifestation des archéologues, puisque ce sera demain. Et puis bien sûr, on retrouvera les brèves de Benoît Lagane. Les archéologues de l'INRAP manifesteront demain à Paris et en région une deuxième mobilisation en 4 mois pour ces chercheurs qui dépendent du ministère de la Culture. Et c'est toujours la concurrence privée-publique qui les inquiète au point de parler de marchandisation du patrimoine.
Et oui, ce sont bien les termes du communiqué de l'intersyndicale qui appelle donc à manifester à Paris et dans 3 villes symboliques demain, à Nantes, à Metz et à Marseille, avec en cause donc cette concurrence pour les chantiers de fouilles préventives, concurrence mise en place en 2003 entre opérateurs publics et privés et qui fait notamment perdre des parts de marché à l'INRAP, l'Institut National de Recherche et d'Archéologie Préventive, cette structure publique donc qui avait été justement spécialement créée pour ce travail. Pour la première année en 2013, elle a réalisé ainsi moins de 50% des fouilles. Alors le gouvernement travaille sur une réforme. En novembre dernier, Aurélie Filippetti s'était engagée sur ce qu'elle appelle un pôle d'archéologie publique, donc INRAP et collectivité, mais toujours pas aujourd'hui de nouvelles lois. Et les syndicats s'impatientent. Écoutez Frédéric Joseph de la CGT Archéologie.
Depuis 2010, l'INRAP a perdu près de 10% de parts de marché au profit essentiellement des opérateurs privés. Aujourd'hui, c'est le moins 10 ans qui remporte la fouille, notamment sur les appels d'offres. Donc on a perdu un cinquième des moyens sur les chantiers. Et aussi, cela a un impact forcément sur la qualité scientifique des opérations réalisées. Là, aujourd'hui, on voit pour un site néolithique ancien, là, en Moselle, il y a un projet d'un opérateur privé qui a été refusé par le service régional de l'archéologie. Ce projet, il est moitié moindre en termes de moyens quasiment que celui qui avait établi l'INRAP. Ce même opérateur avait réalisé une fouille en 2008 à Florange et le site a été très mal fouillé par rapport aux autres sites de la même période. 15 fois moins de mobilier lithique. Lithique, c'est le silex taillé. Effectivement, là, dans ce cas-là, le site n'a pas été correctement abordé.
On avait parlé d'un retour à un monopole de l'INRAP, mais cette stratégie ne fait plus l'unanimité parmi les archéologues.
Mais non, d'ailleurs, les termes du communiqué de l'intersyndicale sont plutôt prudents. On parle de fin du système de concurrence commerciale en archéologie, mais plus de retour au monopole. On parle de régulation, donc, et de contrôle renforcé sur les chantiers de fouilles. D'ailleurs, du côté du ministère de la Culture que j'ai contacté aujourd'hui, le monopole n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, c'est vrai que depuis novembre, le débat est assez intense parmi les archéologues. Faut-il un privilège de l'archéologie publique sur le privé? On a d'un côté par exemple un rapport assassin de la CGT Culture qui parle de marge de plus de 26% de la part des opérateurs privés, quand d'autres chercheurs défendent eux plutôt l'implantation, voire la coopération avec les opérateurs privés. Ainsi, en Rhône-Alpes par exemple, la terre de naissance de l'archéologie préventive et première zone aussi d'installation des opérateurs privés. Je vous propose d'écouter Mathieu Pou, il est chercheur à l'université Lyon 2.
Il est tout à fait nécessaire de conserver un service de l'archéologie préventive public fort qui puisse résister à une concurrence raisonnable, au-delà de 30 ou 40% du marché, puisque l'Institut doit faire tourner des équipes qui sont très importantes. Et la véritable question est de savoir est-ce qu'on veut donner les moyens à l'INRAP de faire son travail et de faire face à cette concurrence, ou si on veut laisser mourir à petit feu. Moi, je pense que compte tenu des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'archéologie préventive en général, avec la loi sur la simplification administrative, l'obligation de relancer le bâtiment, les grands travaux d'infrastructure, structure nationale, les archéologues, quelle que soit leur obédience, INRAP, collectivité, société privée, auraient tout intérêt à se réunir, à faire front commun. Il y a 3000 archéologues en France, et il faut savoir que c'est de la taille d'une PME, d'une entreprise moyenne, qu'on peut fermer du jour au lendemain.
Et ainsi, derrière la question de la concurrence, la question est aussi comment sauver l'INRAP et ses 120 millions d'euros de financement par taxe, donc actuellement menacés. C'est la question à laquelle devra aussi répondre le ministère de la Culture par une loi prévue après les élections, donc entre mai et juillet, et sans doute avant dans ce journal de la culture.
Eh bien, manifestement, le rendez-vous est pris. Merci Xavier Martineau, on se retrouve demain. Tout de suite, la suite du journal de la culture avec les brèves de Benoît Lagan.
Et pour ouvrir ces brèves, direction le Japon, où l'on vient d'apprendre que le romancier très populaire Haruki Murakami, dont les ouvrages se hissent en tête des romans les plus achetés dans son pays, allait publier le mois prochain un nouveau livre déjà disponible à la réservation.
À la réservation?
Oui, très attendu, Les hommes qui n'ont pas de femmes, c'est le titre de ce livre, sera un recueil de 6 nouvelles, 5 déjà publiées dans des magazines et une inédite. Et cela faisait 9 ans que l'écrivain n'avait pas publié des nouvelles.
Et pendant ce temps-là, à Cannes,
on a appris aujourd'hui que le réalisateur canadien Bruce Labrusse présiderait le jury de la 5e édition de la Queer Palm, qui récompense chaque année en marge du Festival de Cannes le film traitant le mieux des questions homosexuelles, bisexuelles ou transgenres. L'an dernier, c'est L'Inconnu du Lac qui avait été récompensé. Bruce Labrusse succède à ce poste au cinéaste portugais João Pedro Rodrigues en 2012, à l'actrice Julie Gayet. Pour info, Bruce Labrusse sera notre invité mercredi prochain pour sa comédie romantique Gérontophilia.
Julie Gayet.
Julie Gayet qui avait été effectivement présidente de ce jury.
Parfait. Et pour terminer, la petite histoire du soir.
Eh bien, ce soir, Laurent, une petite histoire de Zorro de conduite lue sur le site du Nouvel Observateur où comment un justicier libertaire amoureux de l'orthographe et de la twittosphère, après avoir été interdit de web, serait actuellement en voie de recrutement. Je vous raconte. Tout commence le 28 février dernier, au moment de l'ouverture d'un site internet et d'un compte Twitter parodique baptisé « Bécherel ta mère », via lequel un internaute n'hésite pas à réprimander et insulter les internautes quand ces derniers commettent des fautes d'orthographe dans leurs tweets. Un réseau social en pleine expansion puisque « Bécherel ta mère » comptabilise 11 500 abonnés sur Twitter et 6 600 fans sur Facebook. Un succès qui a agacé la maison Hatier. Mercredi dernier, l'éditeur des fameux manuels de grammaire Bécherel a en effet déposé plainte contre la page du Zorro de l'orthographe qui a donc vu son compte Facebook bloqué.
Et qu'est-ce qui ne plaisait pas à l'éditeur?
Eh bien, si Hatier révèle que la démarche du Twitto a fait beaucoup rire au sein de la maison d'édition, en revanche, elle ne voulait pas être associée à ses propos injurieux. Camille Cordonnier, directrice marketing de l'éditeur, interrogée par le Nouvel Obs, explique que si Hatier ne pouvait pas laisser des propos insultants et vulgaires être associés à leur marque, plutôt que de se faire la guerre, elle songeait, dit-elle, à travailler avec lui. En effet, jeudi dernier, le service marketing a même pris contact et complimenté le fondateur du site parodique. Hatier, la maison mère de Bécherel, serait donc en train de demander au fondateur du site Bécherel ta mère de devenir leur community manager. En réalité, c'est être l'animateur du site communautaire. Je cite la directrice marketing d'Hatier une dernière fois. « Le compte officiel, dit-elle, de Bécherel pourrait livrer des infos bienveillantes, des trucs et astuces, et lui pourrait conserver son positionnement justicier. » Moyennant moins de vulgarité. Car, conclut-elle, c'est vrai qu'il dit tout haut ce que les gens disent tout bas, mais est-il obligé d'utiliser autant de putain ?
I'm asking if you want a picture of my dick.
No, I don't want a picture of your dick.
Are you sure?
Plateau Flicaille avec vous, Quentin Dupieux, musicien, compositeur, figure de la mode. On ne va pas passer tout ce que vous faites. Il y a eu notamment Rubber en tant que réalisateur, puisque vous êtes réalisateur depuis 2001. Rubber, c'était en 2009. Ça avait marqué la semaine de la critique à Cannes et puis connu un certain succès dans le monde entier. C'était l'histoire d'un pneu tueur. Vous signez votre 6e film, Wrong Cops, qui sortira mercredi prochain. Un film tourné aux États-Unis avec des acteurs américains et Eric Judor. On y croise un flic obsédé par les seins, un flic hyper pointu en musique et qui vend du cannabis dans des rats morts. Marilyn Manson en ado attardé, un flic bossu et moustachu qui cherche à percer dans la musique. Bande annonce.
What do you want a picture of my dick? Can you feel it? Africa! Fuck! Oh yeah! Good!
Wow.
Have a nice trip down the hill, buddy.
One, two, three.
Oh my god, what happened?
Come back here!
I shot him by mistake. What are you listening to?
Something cool.
Oh yeah!
Just makes me want to be in a dance club. Only guys though.
No girls.
What is this?
Oh my God, this is so huge.
You got the cash?
Of course I got the cash.
Put it on the ground. Okay, now give it to me.
Quentin Dupieux, dans un article des Cahiers du cinéma en 2012, vous disiez « En 2012, j'ai tourné deux films à Los Angeles. Le premier s'appelle Wrong Cops. C'est un film sale, bête et simple. En quoi sale ?»
Sale, il y a plein d'aspects sales. Enfin, sale, mais le côté, enfin, c'est le sale cool. C'est pas vraiment sale, comme vous voyez, je suis quelqu'un de très propre.
Oui, alors c'est quoi le sale cool?
C'est, bon, l'image est un peu vilaine. Volontairement, on a fait des choix techniques aberrants pour obtenir un peu ce rendu un peu crade avec du grain et un petit peu flou. Enfin voilà, c'est un film flou. Enfin, je rassure les gens, c'est pas hyper dérangeant.
Ah non, pas du tout. Ouais.
Voilà, on l'oublie très vite. Et puis c'est sale de l'intérieur. C'est voilà, c'est des flics un peu. Il y a un flic qui passe un tiers du film en slip. Ils vendent des rats, effectivement. Enfin voilà, c'est pas.
Donc le sale est à ce niveau-là.
Le sale est à ce niveau-là. J'ai tourné les trois films Rubber, Wrong et Wrong Cops avec le Canon 5D, l'appareil
photo. D'accord, l'appareil photo.
Voilà, comme tout le monde en fait. Et puis Wrong Cops marque la fin de cette période. On a été au bout de cet outil. On l'a même détruit. C'est-à-dire que pour pouvoir y mettre une lentille, un objectif des années 60, on a été obligé de casser l'appareil, enfin, d'arracher les plastiques pour pouvoir mettre cet objectif russe pour obtenir cette image dégueulasse que j'aime beaucoup. Mais c'était un peu, voilà, on a été au bout de cet outil. Moi, je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux. J'ai tiré le meilleur parti de ce petit outil. Voilà, j'ai quand même fait trois films avec cet appareil photo, quoi.
Lucille Como.
Il y a un autre de vos films qui s'appelle Wrong tout court, donc Wrong Cops, en fait c'est un spin-off, c'est-à-dire qu'il prend pour centre deux personnages secondaires d'un précédent film. Les personnages, c'est l'ado attardé que joue Marilyn Manson et Duke, le flic pointu en musique qui se tape des travelots et qui est dealer aussi par ailleurs. Quelle était leur histoire dans Wrong ?
Alors non, Marilyn Manson n'était pas dans Wrong. Voilà, je suis parti de ce personnage de flic odieux, joué par Mark Burnham, et donc le personnage s'appelait Duke. C'était une toute petite scène dans le film Wrong. Wrong était un film un peu lisse, un peu planant, un peu poli et plutôt sain, je dirais. Et l'intrusion de ce personnage abject dans ce film, ça m'a donné l'idée d'aller plus loin. En fait, j'ai eu envie de voir plus. J'ai été attiré par le sale.
On n'est pas déçu. Vu ce qu'il fait, on n'est vraiment pas déçu voilà. Dans le fait qu'il devienne le personnage principal. C'est Marilyn Manson, hein, je crois, qui vous a écrit pour vous dire qu'il aimait votre travail, votre cinéma, et il vous a invité chez lui à regarder un film de Fellini. C'était quoi ce film et quel rapport avec cinéma ?
Ouais, non, alors en fait...
C'est faux.
Non, c'est vrai, c'est complètement vrai. C'est vrai que ça s'est passé à la première rencontre. Donc, il m'avait écrit parce qu'il adorait Rubber, il était fan du film Rubber. C'est à peu près tout ce qu'il connaissait de moi.
Pas la musique ?
Non, pas du tout, pas du tout. Non. Autant que moi, je ne connaissais pas sa musique, je vois qui est Marilyn Manson. Enfin, à l'époque, je connaissais, mais sans connaître. Et donc, on s'est parlé par email. Et puis, quand je suis rentré à Los Angeles, on s'est rencontrés. Et effectivement, lui, il vit dans le noir avec trois bougies, avec comme pour seule source de lumière un projecteur vidéo, parce qu'il regarde des films. En fait, il passe sa vie à regarder des images. Et puis, on a beaucoup discuté. Et puis, à un moment, il m'a dit, il faut que je te montre un truc. C'est un film à sketch, on va dire. Où je crois trois ou quatre réalisateurs ont fait une petite portion. Et j'ai complètement oublié le reste. Apparemment, le reste n'est pas bon, parce que j'ai vu que la portion de Fellini.
Fellini, ouais.
C'était étonnant qu'il ait envie de me montrer ça. C'était étonnant que ça me plaise, parce que j'étais un peu embarrassé. À une première rencontre, se retrouver devant un écran, c'est un peu gênant. Voilà, il aurait pu me montrer un truc chiant. Et il m'a montré un truc formidable, donc c'était hyper sympa.
Lucille Como.
Quentin Dupieux, vous avez tourné avec beaucoup d'acteurs américains pour ce film-là, dans vos films précédents aussi, et vous dites que probablement ils vous prennent pour un singe. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que je pense, enfin c'est mon interprétation, mais c'est des gens qui globalement sont habitués au fonctionnement d'Hollywood, même si c'est des petits acteurs, ils sont généralement, ils interviennent sur des séries, enfin ils sont habitués au système normal, où c'est des tournages... très classique, hiérarchisé, avec beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Enfin, voilà. Quand ils me voient travailler, moi, avec ma petite caméra à genoux par terre, je pense que j'ai l'air d'être un pauvre type.
Du coup, pourquoi ils ont accepté, par exemple ?
Mais parce que ça les fait rire. Enfin, quand je dis singe, je pense pas qu'ils me méprisent. Je pense que c'est juste hyper étonnant pour eux, déjà, d'avoir ce rapport direct avec moi en permanence, parce que comme je manipule la caméra, je suis tout le temps avec eux. Donc en fait, il n'y a pas du tout le fonctionnement d'un tournage normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la hiérarchisation d'un plateau. Donc c'est en ça que je disais, ils doivent me prendre pour un singe. Et puis surtout parce que mon anglais n'est pas formidable non plus. Et puis mes intentions de cinéma n'ont rien à voir avec ce qu'on leur propose normalement, en fait.
Comment vous les dirigez ? Puisque vous dites que vous êtes au cadre.
Ouais. Alors là, pour moi, 80% de la direction d'acteur, c'est avant tout le choix de l'acteur. Ouais. C'est-à-dire que quand je choisis un mec comme Mark Burnham qui joue le flic de Duke, qui est un acteur qui n'a pas beaucoup bossé et qui attend son heure depuis 25 ans, quand je fais le choix de prendre cet acteur pour le rôle, tout le boulot est fait, en fait, quasiment. Voilà, parce que j'ai choisi une attitude, un climat, une personnalité, un regard, etc. Donc le mec, il est là, il a tout ça en lui dès le départ. Et ensuite, après, c'est très variable, la direction sur le plateau, c'est... Ça varie en fonction des personnalités, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de tout savoir. Il y a des gens qui se jettent à l'eau et qui sont formidables tout de suite. Il y en a d'autres qu'on peut juste diriger avec avec des potentiomètres. Par exemple, fais-le deux crans en dessous, parle moins fort. Est-ce que tu peux sourire quand tu dis ce mot-là ? Enfin, des choses très basiques comme ça. Et puis quand ça sonne faux et que ça marche pas, là je m'investis un peu plus et ça m'arrive même de leur mimer, de leur montrer l'intention. Enfin, généralement, pour l'instant je me suis pas trompé, généralement j'ai bien choisi les comédiens, donc quasiment tout le boulot est fait à l'avance, en fait.
Vous leur faites passer des auditions ?
Pas tous, il y en a qu'on choisit, il y a des acteurs confirmés à qui on ne peut pas demander des auditions. Par exemple, je vais prendre au hasard Steve Little, donc qui est un acteur confirmé, qui joue dans une série culte aux US qui s'appelle Eastbound and Down. J'ai simplement vu cette série dans l'avion, je me suis dit, ce mec est formidable. On l'appelle, on lui fait une offre, et puis lui, ça l'intéresse ou pas, et il vient, mais je ne peux pas lui faire passer d'audition. Donc on se découvre sur le plateau. Puis moi, j'écris pour eux aussi, donc c'est aussi, ça fait partie de la direction aussi. Pour un film comme Long Cops, tous ces personnages de flics, c'est des rôles qui ont été préconçus pour eux. C'est-à-dire que je les avais en tête au moment de l'écriture, donc ça aussi, ça aide la direction.
Depuis Rubber, vous signez vous-même le scénario, la réalisation, la photographie qui est superbe, même si elle est sale ici, le montage, la musique aussi bien sûr. À partir de quand vous avez eu envie de vous passer des autres ? Parce que ça n'a pas toujours été comme ça.
Non, mais en fait, moi je viens de ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des courts-métrages quand j'étais fin d'adolescence, jeune adulte on va dire. Et c'était comme ça, c'est-à-dire que je tournais et puis après je me débrouillais pour faire le montage avec des magnétoscopes ou plus tard dans des régies, j'empruntais des régies télé. J'avais un copain qui bossait chez Canal J, la chaîne des jeunes, et la nuit on allait monter mes courts-métrages. Enfin, j'ai toujours participé en tout cas au montage quand je ne le faisais pas moi-même. Et puis, j'ai pas décidé de me débarrasser de tout ça, c'est plus un... Comment on pourrait dire ? Moi, j'aime bien aller à l'essentiel. Voilà. Mon premier film, Steak, qui était une sorte de film un peu plus... Enfin, le film est complètement conceptuel, mais la façon de le fabriquer, c'était comme un film classique. Il y avait un
vous aviez une équipe, vous aviez un chef opérateur.
Voilà. Etc. Et on prenait le temps. C'est-à-dire que j'ai vécu ce truc de tournage classique, en fait.
Ça ne fonctionnait pas pour vous ?
Non, je m'ennuyais, en fait. Je m'ennuyais beaucoup parce qu'en fait, moi, je viens du filmage. C'est-à-dire que j'ai toujours filmé. J'ai besoin de la caméra et ça fait partie de ces 50% de mon plaisir. Et ça fait partie, c'est mon outil, en fait. Voilà. Donc, sur un film comme Steak, effectivement, je dis à mon chef opérateur, voilà, c'est ça que j'ai envie de filmer. On pose la caméra ici, on prend le temps de faire un beau cadre. Et puis ensuite, je peux aller boire un café parce que lui, il va installer sa lumière et ça peut prendre 45 minutes, ça peut prendre 1h30. Et puis d'un seul coup, il se met à pleuvoir, donc on ne peut pas tourner. Enfin, c'était super, c'était une belle expérience, mais je sais que ça ne me convenait pas. Moi, j'ai besoin de faire les choses, en fait. Et un film comme Rubber, qui est le premier de cette série, ça a été tourné. Enfin, je veux dire, on passait notre journée à filmer. Il n'y avait pas de temps mort, il n'y avait pas de moment café coquin.
Un café coquin.
Oui, il y a beaucoup ça sur les tournages, ouais.
Ça consiste en quoi ?
Tout le monde baise, en fait, voilà.
Ah, super. Lucille Como.
L'ambiance flic à Los Angeles, c'est un sujet qui est traité beaucoup par les séries américaines. Il y a quelque chose de ça dans votre film, à la fois dans le rythme, puis dans le fait que ça dresse un peu le portrait d'une communauté. On revient au personnage, puis on les quitte, puis on y revient. Et donc, on retrouve aussi Ray Wise, qui est l'acteur qui jouait le père de Laura Palmer dans Twin Peaks. Est-ce qu'il y a des séries qui ont pu vous inspirer, et Twin Peaks en particulier ?
Alors, j'aime beaucoup Twin Peaks, mais c'est pas un truc qui m'a marqué forcément. C'est-à-dire que j'aurais pas la force de regarder Twin Peaks aujourd'hui, je pense.
Il va recommencer, hein, vous savez.
Ouais. Mais globalement, je dirais que tout, en fait, toute cette culture m'a imprégné, mais même les mauvais trucs, même Chips, les deux nazes à moto, là. Vous voyez pas Chips?
Si, si, je vois très bien. Voilà. Oui, moi, je vois.
Bon, c'est un truc de vieux.
Merci, mais c'est vrai.
Starsky Hutch, et puis même...
Oh, bah alors là, n'en parlons plus. Voilà, c'est un truc d'ancêtre.
Tous ces dérivés de mauvaises séries, enfin, qui vieillissent très mal, mais qui étaient quand même... qui était, je dirais, hyper sexy quand on avait 15 ans. Quoi. C'était, voilà, on baignait là-dedans et on avait l'alternative, c'était Casimir ou Starsky Hutch. Donc, voilà.
Mais il y a des bonnes séries aujourd'hui qui jouent aussi sur des codes un peu absurdes, qui ressemblent un peu à ce que vous faites, non?
C'est possible.
En dehors des séries Z.
Ouais, je regarde très peu de séries aujourd'hui. Mais, Ronkov, c'est une sorte de magma, de mélange de tout un tas de choses. En fait, c'est pas que... Effectivement, il y avait une pulsion au départ de faire... un format de série, puisqu'on a commencé par un chapitre, un court-métrage qui durait 15 minutes, donc le début avec Marilyn Manson et le flic Duke. Et c'est vrai que la volonté, même dans l'écriture, c'était de faire une sorte de mini-série, mais bon, voilà, c'est devenu un film parce que le premier montage n'était pas concluant et ça ne me plaisait pas comme un film.
Justement, qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans ce premier montage? Parce que vous avez tourné donc plusieurs séquences, 6 séquences. Premier montage, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas?
En fait, j'avais tourné 7 chapitres. Donc, ouais. C'était lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. Et en fait, chaque policier, enfin, gendarme, on peut dire même, avait son heure de gloire à chaque fois dans D'accord. un chapitre. Mais voilà, c'était un mécanisme de série. C'est-à-dire que ça commençait, ça se développait, ça s'arrêtait. Et ça recommençait mardi, hop, on redéveloppe et ça s'arrête. Et quand j'ai vu ça la première fois dans une salle de cinéma, j'ai eu l'impression que ce n'était pas un film, puisque forcément, ça n'était pas un film. C'était une série de scènes qui ne faisait pas un tout. Donc, j'ai été obligé de tout mélanger pour retrouver une sensation de film, parce que c'était quand même ça le but. Voilà. Et donc, j'ai lâché l'idée de la série, mais il y a forcément des restes. Mmh. Et il reste tous ces gimmicks un peu ringards, les images, les arrêts sur images et tout ça, qui font très effectivement 70-80.
Quand vous parlez de votre travail, j'ai pu lire ça dans les entretiens, vous faites référence au procédé d'écriture automatique que pratiquaient les surréalistes. Comment vous procédez exactement, en fait, Quentin Dupieux ?
Moi, c'est une méthode, ça ressemble à ça, mais la méthode est très simple. C'est que je vais à la pêche aux idées dans mon inconscient. Donc, c'est comme la pêche, donc il faut être patient. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a des poissons morts. Des fois, il y a des vieux poissons qu'on a déjà pêchés et relâchés. Donc, une fois que j'ai des idées... Je les organise et puis après, je fais un vrai boulot d'organisation quasi mathématique de ces idées pour créer une logique et en extraire le meilleur jus.
Et c'est comme une dernière question ?
Dernière question peut-être à propos de la musique. Le morceau que compose le personnage que joue Eric Judor dans le film, c'est votre morceau le plus con, je vous cite. C'est quoi un morceau con ?
Bah, c'est toute ma discographie. Moi, j'assume complètement cette approche. Alors, c'est quoi un morceau con ? C'est un morceau complètement... dénué de réflexion, en fait. Enfin, pour moi, la musique, c'est ça. Voilà. J'aime pas la musique sérieuse, j'aime pas la musique réfléchie. Je n'aime pas la musique travaillée, en général. Sauf si, voilà, si on me replonge dans les années 60, 70, j'adore ce qui se faisait à cette époque-là. Mais de nos jours... la musique ne m'intéresse plus beaucoup. J'ai l'impression que tout est devenu très sérieux. Donc un morceau con, c'est un morceau non sérieux qui, n'exprime absolument rien d'autre que sa bêtise.
Ce morceau con, eh bien, c'est ce qu'on entend derrière nous, Stunt de la bande originale de Wrong Cops. Et en plus, ils s'y sont mis à deux pour le faire, Quentin Dupieux et Sébastien Tellier.
Le rendez-vous extérieur.
Tout de suite, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Alors, dans la série Les professionnels de la profession, eh bien, ce soir, c'est le compositeur et clarinettiste Michel Portal qui sera en concert en avril à Nîmes et en mai à Castres. Questionnaire musique, Michel Portal, Manu Farine.
La musique dont vous vous souvenez, chez vous, enfant?
Il y en a plusieurs, parce que j'étais déjà un fou, dans le sens où j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors évidemment, ça passait des coq à l'âne chez moi. Mais en même temps, je prenais des informations sur ceci ou cela, et j'écoutais le jazz, j'écoutais toutes sortes de choses. 20 petits mousses, le vent te pousse, après je parlais... Il y avait les chansons aussi. Les musiques, c'était... Pour moi, comme si j'allais presque faire mon métier de cette histoire.
votre premier instrument de musique?
Moi, je jouais la mandoline, vous vous rendez compte? Je jouais la mandoline. Ça me faisait très mal aux doigts, je n'aimais pas beaucoup. Après, évidemment, j'ai dévié et j'ai pris des instruments avant parce que bon. Et je me suis un peu arrêté à la clarinette. Mais j'ai tout essayé, le violon, tout ça. Non, le piano non plus. Je sais pas, la clarinette est restée comme ça. Voilà.
Et s'il ne devait rester qu'un seul instrument?
Comme disait Mozart, quoi, c'est la clarinette, instrument principal pour moi. Et très jeune, je partais avec ma clarinette, avec mon père, et j'allais jouer dans un coin de montagne avec des gens qui chantaient, qui jouaient de la musique populaire.
Le concert auquel vous auriez aimé assister?
Je sais pas, on m'a dit souvent que Mozart il jouait de l'alto. J'aurais voulu l'entendre jouer dans un, je sais pas, une musique de chambre. Par exemple, on dit que le trio des quilles que je joue, moi, c'était un trio dans lequel il aurait peut-être participé avec son alto, vous voyez. J'aurais voulu voir ou écouter comment il interprétait sa musique, voilà.
Une phrase de Mozart, sans doute, parfaite.
Toujours l'appel de... J'ai pas la tonalité, là, mais ça fait un...
Le compositeur ou la musique que vous avez appris à aimer?
Je suis toujours curieusement avec Mozart. C'est un compositeur qui a très bien compris l'instrument. Il a été au fond là-dedans. Et on dirait que c'était lui aussi un clarinettiste. Et j'ai l'impression que tout coule de source avec lui. C'est pas compliqué, c'est pas fatigant, c'est relaxant. Et tout va bien. Et donc, j'ai rendez-vous avec lui comme quelque chose de... vraiment qui ressemble à mon instrument. C'est-à-dire que je me sens très bien et les premières notes que je vais faire, elles sont là comme un travail que j'exécute tout le temps pareil et ça me fait du bien parce que c'est pas très lointain de l'instrument, voilà.
La musique ou le compositeur qui vous a fait vieillir?
Vieillir? Zéro. Vieillir? Non. Il y a des compositeurs avec le temps qui font du bien et d'autres moins de bien.
Alors la musique qui vous fait du bien?
Je ne classe pas la musique dans les états. C'est-à-dire quand on dit toujours « Oh, que c'est beau !»« Oh, que c'est profond !»« Oh, ça me fait du bien !» Oui, mais moi, pas. Moi, pas. Non, moi, j'en suis pas là. La beauté dans la musique, je la vois pas là-dedans. Ça m'est égal. C'est l'expression de quelqu'un qui m'intéresse. L'expression. C'est-à-dire quelqu'un qui donne un son comme ça, qui fait du bien. Basta pour moi.
Michel Portal, merci.
Merci.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau mozartien avec vous, Théodore Kurensis, chef d'orchestre grec. Vous vivez en Russie depuis 20 ans. Vous êtes à la tête de votre ensemble Musica Eterna et vous êtes lancé à 41 ans dans l'enregistrement de l'intégrale de la trilogie des opéras de Mozart avec Da Ponte, ce qui est exceptionnel aujourd'hui, sachant que vous avez tout enregistré en live sans public, on va y revenir, avec des temps de répétition et d'enregistrement illimités jusqu'à 14 heures par séance pendant 11 jours et nuits d'affilée. Vient de paraître chez Sony votre version de Nozze di Figaro, les Noces de Figaro. Vous aviez déjà enregistré Così fan tutte et puis à suivre donc il y aura Don Giovanni. On vous écoute, vous, dans un extrait de cet enregistrement des noces.
I like it more, Nicolas.
Я хотел бы так, c'est que... Раз, два... Io... Vi dico che signor del Carubino è ancora nel castello e vedete di prova il suo cappello.
Ma come sei questo? E sei giunto a Siviglia, lì dovrebbe...
Scusate, oggi in Siviglia è a casa mia. Là, è scritta la donna, e là, lasciate prendere se voi, perlo, fiamme, avete voi, un
culo. Non vai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, tremando e riposo, narcisetto, arusino d'amor. Delle belle, tremando e riposo,
Théodore Francis, on vous entend ici en répétition, acte 1, scène 8, avec les chanteurs dans le récitatif entre Antonio et le comte. Un mot peut-être sur votre direction, votre travail de direction à main, sans baguette, donc dans la tradition baroque, on va dire. Vous qui demandez aux musiciens de jouer debout, en tout cas c'est ce que l'on voit dans le DVD qui accompagne le disque. Pourquoi debout les musiciens ?
Sometimes I ask them to play lying down in the floor.
Quelquefois, je leur demande même de jouer allongé, hein, sur le sol. Dans l'enregistrement qui sortira en juin, ils ont joué en fait toute la nuit debout sur des chaises. Chaque musicien doit en fait trouver toute sa gamme d'énergie.
So the question is to the most important. Actions of our lives, we are not seated.
Comme pour toutes les questions les plus importantes de notre vie, c'est qu'en fait, ça ne se passe pas assis. En
we
fait,
are or flying, or standing, or
soit
lying.
On est debout, soit on est allongé, soit on vole.
I think also the energy, because
donc,
we play
je pense
the
également que l'énergie, hein, parce que effectivement, quand on donne des concerts, on est debout également. Avec un orchestre symphonique, on est debout aussi. Et je pense que l'énergie en fait, des musiciens, assis ou debout, n'est pas du tout la même.
Dans les répétitions que l'on peut voir dans le film, on vous voit chanter. Est-ce que vous avez eu une formation lyrique ?
Yes, I was. I had.
Oui, tout à fait.
Some of the best pedagogues.
J'ai eu quelques-uns des meilleurs professeurs.
I was about having scholarships to make a career.
Et effectivement, j'étais sur le point d'avoir une bourse pour démarrer une carrière et auprès de l'atelier lyrique. Mais j'étais d'une certaine manière un trop bon musicien. J'étais violoniste, j'étais compositeur également. Et j'étais trop bon hein, pour être seulement un chanteur. Et je crois que en tant que chanteur, j'étais trop limité. C'était pas mon rêve hein, de devenir chef d'orchestre.
Alors comment l'êtes-vous devenu ?
Je vais vous dire quelque chose. J'adore la musique hein, de la manière la plus profonde qui soit. Et j'aime la musique plus que tous les sens que nous pouvons avoir dans la vie. Je pense que la musique a vraiment le pouvoir de sauver le monde. Le problème, c'est que si je me trouvais non convaincant dans un certain répertoire, je ne le jouerais pas. Je ne fais que ce sur quoi je pense avoir un certain point de vue. Je ne reproduis pas quelque chose qui existe déjà tel quel.
Mathieu Conquet. Sauf qu'en plus, les Noces de Figaro, il y a presque eu déjà 200 enregistrements de réalisés. Le vôtre est vraiment très singulier. La première fois que vous avez dirigé ces Noces de Figaro, c'était dans un hôpital à Moscou pour des malades en phase terminale. Qu'est-ce que cette expérience a imprimé à votre lecture de l'œuvre de Mozart ?
We had the tour. We were nominated as best opera house.
On a été donc nominé comme meilleur orchestre de Russie, et on jouait donc à Moscou.
But our anarchistic region of Musica Eterna.
Mais notre énergie anarchiste en fait à Musica Eterna est très sensible à ce qu'est la mission de la musique. Et nous avons commencé une série de concerts dans les hôpitaux, dans les prisons, avec des musiciens, des instruments d'époque et pour essayer comme ça de donner de l'amour à ces gens qui n'ont pas de lien avec la musique. Et les musiciens de l'ensemble, donc, allaient avec des formations plus petites dans différents hôpitaux ou prisons de différentes villes, sans aucune organisation, sans aucun soutien, parce que c'est ça vraiment le cœur de la musique. Hein. Et c'est ce qui est le plus important avec la musique, c'est donner de l'amour. Et si vous ne donnez pas d'amour, tout le reste n'existe pas. L'expérience, donc, c'est qu'on est allé dans cet hôpital où les gens sont envoyés par leur famille hein, pour mourir quand ils ne peuvent plus recevoir aucun traitement. Et c'est très difficile parce qu'il y a là des gens qui sont aux dernières heures de leur vie, hein, qui sont sur le point de mourir, ou le jour même ou le lendemain, et également des enfants. Et donc on a réuni tous ces gens dans la pièce de réunion d'hôpital et on nous a dit jouer seulement 30 minutes parce qu'ils ne pourront pas tenir leur attention davantage et on a commencé à jouer Figaro. Et je leur ai dit alors qu'on n'était pas venu pour jouer pour des gens qui étaient sur le point de mourir, mais que nous étions venus pour jouer pour des gens qui étaient en vie et que nous voulions découvrir les trésors de Mozart et le secret de la vie et le cadeau de la vie ensemble. Personne ne savait combien de temps il allait vivre, hein, mais qu'à ce moment précis, nous étions tous en vie et que nous devions partager ceci. On a donc commencé à jouer et au bout d'une demi-heure, le public a commencé à crier en disant « on ne veut pas retourner dans nos chambres, on veut en encore ». Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où on était obligé de jouer l'opéra dans son ensemble. Et après donc, la représentation, certaines personnes ont commencé à lire les poèmes qu'ils avaient écrits pendant la représentation. Il y avait un petit gamin de 8 ans qui disait « je veux être un chef d'orchestre ». Et les docteurs et des infirmières sont venus et m'ont serré la main en pleurs. Et j'ai vu que leurs mains étaient noires et je leur ai demandé pourquoi est-ce que leurs mains étaient noires comme ça, bleues en fait. Hein, et ils m'ont expliqué donc que c'était parce que les gens, au moment de mourir, leur serraient la main tellement fort qu'ils avaient donc des bleus sur les mains. Ces gens, ils ont compris vraiment dans la profondeur ce qu'était Mozart. Et le pouvoir de Mozart et le miracle, les docteurs m'ont dit que quelqu'un qui avait été incapable de s'alimenter pendant 2 semaines a demandé des œufs. Quelqu'un qui n'arrivait plus à marcher depuis longtemps s'est mis à aller marcher dans le jardin. Quelqu'un qui était sur le point de mourir s'est mis à appeler des amis. Enfin voilà, il y a eu plein de petits miracles qui m'ont été rapportés par les médecins. Et vous voyez, c'est ça le miracle de Mozart.
Alors en écoutant tout le champ lexical que vous développez, un champ lexical on va dire spirituel et de messages d'amour, je me demandais, Théodore Kurensis, quelle était la place de la musique dans votre famille en Grèce ?
My mother is a musician.
Ma mère est musicienne.
Et
la musique pour moi, c'était quelque chose de très naturel parce qu'évidemment, quand j'étais bébé, ma mère donnait des leçons et j'étais souvent assis avec elle. Et puis, je me réveillais avec le bruit de la musique, hein, le son de la musique. Elle jouait Schubert, Mozart. Quand j'avais 3-4 ans, je pouvais improviser puis jouer au piano toutes les chansons que j'entendais à la radio. La musique, c'était vraiment quelque chose de naturel pour moi. C'était pas quelque chose qui était un désir, c'était juste comme mes doigts.
Alors pourquoi avoir quitté la Grèce pour joindre la Russie pour vous former ?
Parce que en Russie, il y avait ce professeur génial, Ilya Moussine. Et pour un jeune anarchiste de 17-18 ans qui se bat contre la Constitution en Europe, la chose qui était juste après, c'était l'Orient Express, en fait, en termes d'imaginaire. Et le monde allait très mal, mais il y avait à l'époque l'avant-garde, le romantisme, les gens étaient dans un état comme ça de création. Hein. Et voilà, quand on a tout dans le monde, on se fiche de tout. Ma famille était très très inquiète. Hein. Ils disaient que j'étais fou, j'avais une bourse pour aller à New York et puis j'ai dit non, je vais aller à Leningrad. Mais c'était le moment le plus heureux de ma vie, en fait. Voilà, on se disait, soit on va manger, soit on va boire de la vodka. Et qu'est-ce que vous choisissiez à cette période-là ? Vous choisissiez la vodka, bien sûr. Et puis le soir, hein, vous buviez de la vodka dans une formidable compagnie artistique, hein, de la bohème, vraiment. Et puis vous parliez de mystérieuses expériences, tout ce qu'on pouvait voir dans la musique, par exemple, de Scriabine.
Et c'était
quelque chose qu'on pouvait avoir, cette atmosphère, à Paris dans les années 20.
Mathieu Conquet.
Alors, retour aux noces, on va écouter un extrait et vous nous en direz un mot derrière. On est à l'acte 4, il fait nuit dans le jardin du château et Barberine cherche une épingle, celle que le maître lui a donnée pour Suzanne. Votre version, elle est pour le moins décapante en ceci qu'il y a très peu de vibrato dans la voix de la chanteuse qu'on entend, beaucoup de naturel. J'ai voulu faire un enregistrement où le chant serait le plus éloigné possible du chant d'opéra. Et pourquoi ? Il y a deux questions en une. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que cette cavatine, elle est si peu mozartienne, Theodore Kurenzis ?
It is this Mozartian that creates the Schubertian.
Ah, c'est le Mozartien qui a créé le Schubertien.
If you remember the fantasy of,
et si vous vous souvenez de la fantaisie pour quatre mains qui est faite par Barbarina, mais je veux dire que en fait, c'est un adieu hein, à l'ère baroque.
And, nostalgic promise about
et aux promesses nostalgiques hein, d'un futur sombre.
How is Mozart can give, you know, he always interested.
Comment est-ce que Mozart peut donner? Il est toujours intéressé dans un changement de scène. Hein, dans le deuxième acte, on voit donc la garde-robe de la comtesse, et puis on voit des nouveaux acteurs, des divas de l'opéra seria sur la scène. On a ces tons roses hein, de l'intérieur, et la musique est différente. C'est une musique différente après le premier acte. On rentre dans le contraste là, avec un changement d'atmosphère, un changement d'intériorité, un changement de couleur.
Vous parliez tout à l'heure du fait que la musique pouvait sauver le monde. J'aimerais avoir votre regard sur la Russie et ce qui se passe aujourd'hui.
Je vais vous dire
quelque chose. Je vais être très honnête avec vous et avec les auditeurs de ce programme. Je suis en Russie quelqu'un qui est très critique vis-à-vis de Vladimir Poutine. Je crois que beaucoup de choses en Russie ne sont pas bonnes, mais je dois dire que les informations que vous recevez en Europe de l'Ouest ne sont pas correctes.
Et
vous savez que quelquefois, j'écoute les interviews de Poutine, je les écoute en russe, et puis ensuite, je les écoute traduites, et ce que j'entends, c'est l'inverse de ce qui a été dit. Est-ce que vous pourriez imaginer que moi, je parle en fait maintenant en anglais et que la personne qui me traduit traduise l'opposé de ce que je dis ? Et tout le problème, je crois, de cette dernière période, c'est qu'il y a beaucoup d'exagération.
Le rendez-vous, 10h. La session.
Session inédite, musicale donc, mais dans un autre registre, Mathieu Conquet.
Oui, ce soir avec le pianiste Ahmad Jamal, toute une histoire de la musique américaine à lui seul. Hein. Il est né en 1930, professionnel très jeune, à hein, 11 ans, et s'est formé au piano en jouant aussi bien du Duke Ellington que du Gershwin, du Bach et du Art Tatum. Dans les années 50, il va redéfinir le format qui deviendra sa marque de fabrique, le trio, qui va beaucoup faire évoluer. On a parlé de la nouvelle architecture qu'il avait apportée au jazz. Frederick Russell Jones, qui a grandi dans l'Amérique de la ségrégation, qui s'est converti à l'islam à 22 ans, il est devenu il prend le nom d'Ahmad Jamal. À 83 ans, cette année, le musicien de Pittsburgh publiait un disque magistral en quartet, Saturday Morning, une sorte de pendant pulsionnel au précédent, Blue Moon, avec les mêmes musiciens, mais qui joue sur une sorte d'épure où il valorise les silences, la réitération des motifs. Ne dites pas jazz, mais musique classique américaine. Miles Davis, à son propos, avait dit « Sa conception de l'espace, la légèreté de son toucher, sa retenue, sa façon de phraser notes, accords et traits m'en ont mis plein la vue. » Ahmad Jamal dans les studios de France Culture. Ahmad Jamal dans les studios de France Culture. Son disque Saturday Morning est édité par le label Jazz Village. Il sera en concert le 2 juillet au Théâtre de l'Odéon à Paris.
Une session bien sûr à réécouter et à podcaster sur le site de l'émission.
Sometimes I ask them to play lie down in the floor.
Quelquefois, je leur demande même de jouer allongé, hein, sur le sol. Dans l'enregistrement qui sortira en juin, ils ont joué en fait toute la nuit debout sur des chaises.
Après, c'est très variable la direction sur le plateau. Il y a des gens qu'on peut juste diriger avec des potentiomètres. Par exemple, fais-le deux crans en dessous. Est-ce que tu peux sourire quand tu dis ce mot-là ?
Merci à nos invités. Quentin Dupieux, Wrong Cops, sortira mercredi en salle. Et puis la BO du film est parue chez Because Music. Théodore Curensis, Vos Noces de Figaro sont parus sous le label Sony Music. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
En quoi les progrès, les nouvelles techniques peuvent-elles attenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui pourrait naturellement être menacé.
Demain, une émission littérature et voyage avec Axel Kahn, vous venez de l'entendre. À ses côtés, Bernard Chambaz, la session Mathieu.
Fanfare, Amsterdam, Klesmerband.
Je rappelle que cette émission est toujours en partenariat avec Anou Paris qui, cette semaine, fait sa une sur les visages de la littérature argentine au Salon du Livre qui ouvre ses portes vendredi prochain. Marie ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission à réécouter en ligne ou à podcaster, bien entendu. Une émission préparée ce soir par Lucille Como, Mathieu Conquet, Benoît Lagan, Xavier Martinet, Aïssatou Endoy et Marie Pio. À la prise de son, Lucas Vaillant et Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Thomas Beau. Et je vous rappelle que nous serons en direct au Palais de Tokyo vendredi soir. L'entrée est libre, venez. Il y aura Thérèse Claire et Denis Garbrand et la session de Nosfell.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sous un petit format. Et c'est Robin Renucci qui lit Villard, Vitesse, les deux V de Jacques Ralite. Bonne soirée à tous.